Niveau terminal, histoire contemporaine, Iran. Ce podcast porte sur l'Iran et essaiera de donner quelques clés pour comprendre la situation actuelle. Tout d'abord, il nous faut revenir à l'Antiquité, même l'Antiquité ancienne. Le premier peuple à avoir laissé des traces habitant sur le plateau iranien sont les Élamites, du 3e millénaire au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Peu à peu, ils constituent un royaume important et puissant. Cependant, le vaste empire qui nous est resté connu est celui des Achéménides, construit au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec les trois grands rois que furent Cyrus, Cambyse et Darius. Cet empire achéménide s'est développé de l'Himalaya jusqu'à la péninsule arabique et évidemment la Turquie actuelle. C'est cet empire qui fut confronté aux cités grecques, notamment lors de deux guerres médiques au 5e siècle avant Jésus-Christ, en moins 490 ou en moins 480. C'est encore cet empire qui fut conquis par Alexandre le Grand à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, d'autres dynasties régneront sur ce que nous allons appeler la Perse, évidemment les Sassanides, puis les Parthes, qui sont des dynasties qui seront en butte à l'Empire romain, puis à l'Empire byzantin aussi. Enfin, au 7e siècle après Jésus-Christ, la Perse, l'Iran donc actuel, sera conquise par la conquête arabe et deviendra musulmane. Donc, l'islam est arrivé avec la conquête arabe en Perse. Faisons un bond très important dans le temps et venons donc au 20e siècle après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, au début des années 1950, entre 1951 et 1953, un premier ministre assez progressiste, qui s'appelait Mossadegh, voulait renégocier la rente pétrolière avec les Occidentaux, avec les Anglais qui étaient présents depuis de longues années, et les Américains aussi, qui évidemment s'intéressaient au pétrole iranien. Il est nécessaire de rappeler qu'avec l'Irak et l'Arabie saoudite, les réserves de pétrole iraniennes constituent les troisièmes réserves de pétrole au monde. Donc Mossadegh, premier ministre iranien, voulait appliquer la règle du 50-50, c'est-à-dire 50% des recettes du pétrole qui restaient pour le pays iranien. S'en est suivi un coup d'État soutenu par les États-Unis, notamment évidemment par la CIA, pour renverser Mossadegh et installer donc au pouvoir des gens qui leur étaient plus favorables. Ainsi, la royauté iranienne, avec le Shah d'Iran, s'installa au pouvoir sous l'aile américaine jusqu'en 1979 et la fameuse révolution islamique. En 1979, le pouvoir royal iranien est renversé par l'ayatollah Khomeini, qui crée une république islamique en Iran. Nous connaissons d'autres régimes islamiques au Proche-Orient, évidemment l'Arabie saoudite, mais qui n'est pas une république, qui est une royauté. C'est la première république islamique créée. 1979 est une date très importante dans les relations entre l'Iran et les États-Unis, puisque vous le savez tous, une prise d'otage de l'ambassade américaine aura lieu à Téhéran, une prise d'otage qui va durer plus d'un an et qui va tendre extrêmement les relations entre les deux pays. D'ailleurs, cette prise d'otage est toujours en mémoire, à l'heure actuelle dans l'administration américaine, par rapport évidemment à la situation en Iran et par rapport à l'attitude adoptée vis-à-vis de l'Iran. Ensuite, dans les années 80, se déroulera une guerre très meurtrière entre l'Iran et l'Irak. Cette guerre fera plusieurs centaines de milliers de morts, avec l'utilisation d'ailleurs de gaz chimiques. Alors, pourquoi rappeler ces choses? Premièrement, pour expliquer que les Iraniens ne sont pas des Arabes. Est arabe celui qui parle arabe, les Turcs d'ailleurs parlent turc, ne sont pas arabes non plus, les Iraniens parlent le persan, le farsi pour la majorité. Ils ne sont donc pas des Arabes. Ils sont musulmans, certes, mais ils sont à 90% chiites. 90% des musulmans dans le monde sont sunnites. Vous voyez bien qu'il y a là une division par rapport au monde arabo-musulman proche-oriental. Je parlais aussi de l'Irak, de la guerre Iran-Irak. Pourquoi? Parce qu'à l'est de l'Irak, la majorité de la population irakienne est chiite. Et donc, les Iraniens lorgnent, les Iraniens regardent, les Iraniens agissent évidemment en Irak, puisqu'ils espèrent récupérer d'une manière ou d'une autre une partie de la population du territoire irakien, puisque les habitants de l'Est sont chiites. Ainsi déjà, une différence est marquée entre l'Iran et ses voisins, sur le côté non arabe, sur le côté aussi non sunnite, mais chiite. Ce qui fait que l'Iran attire des inimitiés de la part de l'Arabie saoudite, par exemple, qui est évidemment le champion du sunnisme. Hein. L'Arabie saoudite, je vous rappelle, la Mecque et Médine, les deux, liens les plus, les deux lieux les plus saints de l'islam, sont en Arabie saoudite et défend le sunnisme. Le sunnisme défend la ligne la plus traditionnelle et la plus majoritaire de l'islam. Alors, les Iraniens, le gouvernement iranien, pardon, se trouve présent aussi dans d'autres pays à travers notamment des groupes armés comme le Hezbollah au Liban et en Syrie aussi. L'Iran est donc une puissance régionale qui veut pouvoir peser sur la destinée du Proche-Orient. Ce qui peut paraître légitime, ce sont des pays qui sont voisins du sien. Avec les États-Unis, donc, la situation est tendue depuis 1979. La situation a été de nouveau tendue dans les années 2000, nous le savons, sur la question atomique, la question nucléaire. L'Iran est soupçonné par la communauté internationale d'avoir développé ou de chercher à développer un programme nucléaire qui ne soit pas entièrement civil, mais un programme d'enrichissement d'uranium qui mènerait à la constitution d'un arsenal militaire nucléaire. Ainsi, il y a eu des allers-retours, il y a eu des négociations, des tergiversations sur cette volonté de l'Iran de se doter ou non de l'arme nucléaire. Des accords avaient été négociés, notamment sous le président américain Obama et par les Européens aussi, qui avaient permis des enquêtes, des visites de l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale à l'énergie atomique qui dépend de l'ONU, avec des inspecteurs qui venaient en Iran regarder comment se passait ce programme et qui certifiaient ou non que ce programme était civil entièrement ou pouvait déboucher sur du militaire. La communauté internationale avait accueilli avec joie le fait que ces visites puissent se faire et le fait qu'il y ait une négociation entre l'Iran et la communauté internationale afin de préserver la paix dans la région, autant qu'on puisse la préserver dans cette région très bouleversée et mouvementée, et effectivement de savoir que l'Iran n'allait pas se doter d'une arme nucléaire. Vous le savez tous, depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, la politique étrangère américaine a été quelque peu chamboulée sur certains points, et notamment sur celui-là. Le président élu américain a fait le choix de réfuter cet accord et de faire pression sur l'Iran en espérant avoir des contraintes supérieures, en espérant un abandon peut-être, je dis bien peut-être, on ne sait pas, total du programme nucléaire iranien. Donc l'Iran, qui avait une ouverture sur l'étranger, notamment qui pouvait de nouveau commercer avec l'étranger, puisque l'Iran avait été sous embargo, s'est retrouvé de nouveau sous embargo. La situation intérieure a été de nouveau très tendue, au niveau social, des manifestations, au niveau économique aussi. Vous vous rendez bien compte que si le commerce avec l'étranger n'est pas possible, il y a une croissance économique qui est moins importante. Alors cette situation, pour le peu qu'on sache, a abouti peut-être à un durcissement du régime, ce qui ne paraît pas illogique. Alors il faut savoir qu'en Iran, les grandes villes, notamment Téhéran, la capitale, aimeraient plutôt une politique plus libérale, notamment au niveau des mœurs, au niveau de la société, au niveau des femmes. Mais les campagnes, et qui restent très importantes en Iran, sont plutôt du côté des conservateurs, du côté du clergé iranien. Et c'est ce clergé qui, plus ou moins, d'après ce qu'on sait, a repris la main ces dernières années. Alors, dans ce magma qu'est le Proche-Orient, comme nous l'avions dit avant, l'Iran a effectivement avancé des pions en Syrie, en Irak, et est en but aux ambitions aussi de l'Arabie saoudite, en affichant aussi ses ambitions. Et depuis 2 ans, donc, est en but aussi au changement de la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de ce pays. Nous avons vu toute une escalade depuis 1 an, des attaques de pétroliers, l'embargo américain aussi qui a été remis, des attaques d'installations pétrolières saoudiennes, l'attaque de l'ambassade américaine en Irak, et qui mène à la situation que nous avons début 2020 aujourd'hui, avec une escalade, le terme est très à la mode, entre les gouvernements américains et le gouvernement iranien. Nous ne savons pas où cela va mener. Cependant, il apparaît clair que ni le gouvernement américain, ni le gouvernement iranien ne souhaitent une guerre frontale qui ferait des dommages incroyables de camps et qui rallumerait l'embrasement du Proche-Orient. Dernière chose à noter, l'Iran fut plus ou moins un allié dans la guerre contre Daesh, contre l'État islamique, puisque l'État islamique prenait le retour d'un califat sunnite qui était farouchement anti-chiite, donc contre les Iraniens. Vous rendez bien compte avec cette dernière remarque que, comme toujours, ou comme depuis un siècle, le Proche-Orient est un endroit très compliqué. Merci et je vous enjoins évidemment à suivre les actualités et notamment les dossiers qui pourraient être faits dans les grands quotidiens français tels que Le Figaro, Libération ou Le Monde, et même d'aller voir évidemment les quotidiens européens comme Der Spiegel ou Die Welt en Allemagne ou Le Guardian ou Le Times évidemment, en Angleterre et le Washington Post par exemple, pourquoi pas aux États-Unis. Tenez-vous informés. Merci.